Cette semaine, dans le balado, on court pour notre vie, on passe un séjour mémorable en forêt et on veut mourir dans la dignité, mais qui s'applique aussi aux deux... aux deux premiers films, je pense.
Mourir dans la dignité?
Ouais, peut-être. Bienvenue à mon
Tout
ciné...
le monde veut mourir dans la dignité.
Ben oui. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff!
Salut! Je sais pas si c'est une note morbide ou une note joyeuse.
La mort est très présente cette semaine dans
Écoute,
les films.
C'est novembre, alors...
Ouais, peut-être, ça va avec.
C'est quand le... Ah non, je mélange. Le 25 novembre, c'est le Buy Nothing Day, normalement. Mm-hmm. Un mois avant Noël, que t'es supposé rien acheter, mais qui tombe pas mal dans le Black Friday, ouais. Fait que ça, c'est pas un mouvement qui a beaucoup de popularité. Mais le fameux Blue Monday, puis c'est la pire journée Mossad, c'est en janvier. Je sais pas si c'était en novembre, mais c'est en janvier. Okay. C'est comme mesurer que c'est là que tu reçois tes bills de carte de crédit.
Ouais,
c'est un lundi. C'est pas le premier lundi après les fêtes, c'est genre le deuxième, là, une affaire de même, que t'es comme... Oh, là, il fait noir, c'est l'hiver.
Les achats, fait que mi-décembre,
c'est ça, exact. Ouais, c'est... Fait que c'est ça, c'est genre le 13 janvier, là, une affaire de même, puis que c'est supposé être la journée dans la consommation d'Amérique du Nord et de pays occidentaux, mettons, là, la plus drable.
Alors,
on s'en reparlera rendu
oui,
là. Je sais pas si on va avoir
ouais.
des bonnes comédies pour se remonter
le moral. En tout cas, voir du film français en masse, on y reviendra.
Film français international, oui, mesdames et messieurs.
Petit tour d'horizon d'actualité. Écoute, c'est la... Ça fait longtemps qu'on a une semaine où c'est vraiment rien passé.
OK.
Fait que le seul petit truc que j'ai déniché, c'est comme un peu passé sous le radar que le tournage de Dune 3 vient d'être complété.
OK.
Fait que on avait déjà
parlé. Fait qu'il n'y a rien annoncé, puis c'est passé sous le radar en plus.
Ben, exact. Tu sais, ben, il y a toujours quelque chose qui filtre, tu sais, une photo, quelque chose,
ouais.
Mais... J'ai rien okay. vu passer du tout sur Dune Part 3.
C'est
en
fait. Ça, fait qu'il n'y avait rien pour clickbaiter.
Non, exactement. Mais juste la production qui a annoncé la fin du tournage. Là.
Est-ce que
donc,
c'était. C'est parce que des fois, on parle au micro, on parle encore plus hors micro et tout.
Ouais.
On avait annoncé que Robert Pattinson était dans le film. Hein?
Oui.
Ça, c'est confirmé.
Oui, tout okay. à fait.
Cool. Puis ça sort décembre l'an prochain.
Exactement.
Dans 13 mois. Okay.
Ouais, ouais, ouais. Donc, on se la joue gros pour le
Puis
temps des fêtes,
quand même.
Puis il va
y avoir aussi un Star Wars? Non.
Ça, c'est au mois de mai 27.
OK. Mais ouais. À Noël, il y a un autre gros film. Il y a Denis Villeneuve, il me semble qu'il y a une autre grosse franchise là, de
Jumanji,
Disney.
Jumanji.
Quelque chose, peut-être.
Jumanji. Ouais, je sais qu'il y avait... Ouais, je me rappelle plus. Mais il me semble qu'on se dit hey, « ça n'a pas de bon sens, il y en a un qui va se tasser. » Mais en tout cas...
Ouais, c'est ça. OK.
Bref,
en tout cas, on
ça
s'en reparle
confirmé.
Toutes
mais
les
pour les fans de Dune, donc ben, sachez que ça s'en vient.
C'est
ben cool. Ouais, tout à fait. Écoute, je pense pas qu'on oserait placer un teaser avant l'été prochain. Je sais
non,
pas.
D'après
mais...
moi, ça va être à l'été, effectivement.
Ouais, c'est ça. Peut-être le Odyssey de Christopher Nolan. Il est chez Warner.
Oh, non, c'est Universal,
non,
la star.
Universal.
Fait que...
C'est vrai, il boude de Warner.
Non. Non, mais peut-être sur Mortal Kombat.
Oui, prenons les paris.
Mais donc, peut-être qu'ils vont rusher puis sur The Bride, peut-être, qu'ils vont être prêts dès mars de mettre un petit... Il faudrait qu'ils mettent un title, un date announcement, là, tu sais, quelque chose qui dure 45 secondes, là, trois images qui ont eu leur traitement de coloration, le titre, la date.
Ouais.
C'est facile à faire. Là,
exact.
Ça coûte quand même... 2 millions, mais c'est facile à faire.
Ils ont les moyens. Bande annonce, ben là, avec la sortie de Zootopia qui arrive prochainement. C'était sûr que Disney était pour lancer une bande annonce d'un des grands films de 2026. Et ben, je suis bien content que c'est finalement Toy Story 5 qu'on a pu voir, qu'on se fait agacer comme
oui,
ça.
Oui, puis chose qu'on avait étonnamment pas encore vue dans l'univers des histoires de jouets.
Oui.
Les jouets électroniques, les jouets ordinateurs style. Fait que
ouais.
Là, l'enfant, le nouvel enfant que je sais plus c'est qui, là, va.
Je pense
que
c'est Bonnie, c'est toujours la fille du quatrième. De...
J'ai juste vu les deux premiers.
D'accord.
Alors, je ne sais
pas. Ah, ou tu vas avoir un rattrapage.
Oui, on verra bien.
Ah non, quand même, ça vaut la peine.
Oui, oui.
Le 3 est vraiment un très grand film, nonobstant.
D'accord. Oui, il paraît que tout le monde pleure.
Oui, oui.
Je suis capable de pleurer sur d'autres films au cinéma. Ouais. J'ai pas juste besoin d'histoire de jouets. Mais peut-être
t'es,
aussi.
Non, t'étais-tu un peu trop vieux? Moi, peut-être un peu trop vieux.
Non, mais je suis la génération du premier.
Ouais.
Mais à un moment donné, je grandis puis j'écoute. C'est ça. Ça fait partie de toute la parenthèse des films de Disney que j'ai pas écouté pendant, mettons, 15 ans. Là,
ouais.
Genre entre 2005 et 2020, je n'ai pas écouté. Là. Fait que.
Ouais, moi, je vais avouer que ça fait partie de mes films fétiches de Pixar. J'aime bien l'univers de Toy Story. Je les réécoute tôt. En famille, aux 3-4 ans. On va se
les toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, cette
nouvelle
enfant,
menace.
Enfant Bonnie va recevoir une espèce de tablette, pas un iPad, là, mais un genre de jeu pour enfants.
Smart Game, je pense.
Ouais, c'est ça. Fait que les autres jouets semblent terrorisés de dire qu'est-ce que ce truc et va-t-on tout perdre?
Bien sûr.
Je pense pas qu'on va mettre l'intelligence artificielle là-dessus, mais peut-être, qui sait. Est-ce que la tablette va communiquer avec eux? T'sais? Est-ce qu'elle va être animée en tant que telle? Est-ce qu'elle va avoir une double vie, genre la tablette parle comme un jouet parle, mais aussi il y a des jeux dedans?
J'ai l'impression que oui, normalement, je pense que ça va être...
C'est un tout petit teaser, on ne sait pas encore. Sûrement qu'il va y avoir 3 bandes annonces d'ici la sortie.
Exact.
Mais le mi-juin est toujours une date chouchou chez Pixar. Mm-hmm. L'été dernier, ça a été plus mollo avec Elio. Là. La réception a été plus timide. Mais l'autre année d'avant, c'était Inside Out 2.
Ça a été la manne.
Je pense qu'on est comme ça. Là. On alterne entre une nouvelle production puis une franchise. Puis ça sonne le milliard là encore pour Toy Story 5. Un genre de 500 millions, 400 millions américains. Là.
Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour Toy Story 5. Que je dis pour beaucoup de gens, c'est... des personnages très, très chéris qu'ils aiment encore.
On va revendre des édredons puis des peluches puis des costumes d'Halloween.
C'est clair.
Ouais, c'est ça. Là, c'est ceux qui font des statistiques ou qui notent là, les costumes d'Halloween là, qui ont passé cette année. D'après moi, l'an prochain, il y a des Buzz puis des Woody qui vont recommencer. Là.
Et sûrement aussi des Mario parce que ça va être une grosse année animation. Deuxième Mario aussi s'en vient de Super Mario Brothers Galaxy Movie qui avait été comme annoncé... comme ça, je pense que peut-être un mois et demi que, hop, finalement, la suite sort au printemps.
Il y avait annoncé la date, mais ça, c'était comme pas nécessairement public, là. Mais je pense que c'était pas nécessairement un secret, mais c'est juste qu'il y avait rien à se mettre sous la dent, mais c'était annoncé qu'il y aurait, ou des fois, au calendrier, ils vont mettre Untitled, Universal and Nintendo Movie, là, tu sais. C'est comme un peu les Zelda, tu sais, les dates sont déjà là, c'est juste qu'on a rien à se mettre sous la dent, puis qu'on n'en parle plus. Fait que je pense que c'était connu. Mais il y a effectivement comme 2 semaines, l'affiche est sortie. Il y a même une semaine, je pense, l'affiche est sortie. Puis là, paf, la bande-annonce. Ouais. Fait que, écoute, ben, c'est un jeu vidéo que je n'ai pas joué, mais Bowser est encore captif. Puis le bébé Bowser arrive.
Ouais, Bowser Junior, qui est dont la voix, c'est Benny Safdie, quand même.
OK.
J'allais voir un
très
peu.
Très populaire.
Ouais, puis il a quand même joué quand même des petits rôles ici et là. Tu sais, je me demandais, coudonc, si tu...
Mais
comme,
au cinéma, oui, mais en voice acting, je sais.
Non, mais tu sais, il est capable de jouer quand même.
Benny, de plus en plus. C'est Josh qui joue pas.
Exact. Puis on a quand même l'ajout de Brie Larson qui va jouer la princesse Rosalina.
Ah, c'est elle qu'on voit à la fin.
Effectivement. Donc, on est dans le jeu vidéo de Super Mario Brothers Galaxy qui était sorti en 2007, que moi non plus, j'ai jamais joué. Moi, ça arrête à... que j'ai même pas joué au deuxième, je pense. Je pense que j'ai joué au Super Mario Bros. Brothers.
Un, là, le premier.
La console, la première génération, puis un peu du Mario Karting dans le temps. Fait que,
Super Nintendo. Mais, c'est ça. Fait que, je sais que c'est un des jeux les plus populaires, les plus aimés, celui-là et tout. Fait que,
mais honnêtement, la bande-annonce, le teaser est très sympathique. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu plus d'humour même que le premier. Là, ça fait longtemps que je l'ai vu, je ne l'ai pas réécouté depuis. Mais toute l'espèce de Bowser miniature pris dans son...
En colère, mais qui essaie d'être repentant. Puis, en tout cas, j'aime vraiment bien, c'est Illumination qui font ça, là, les mêmes que les détestables moi. Puis leur coloration, puis l'animation, puis c'est vraiment beau les films qu'ils font. Fait que... Puis Mario est un univers arc-en-ciel coloré, toutes les couleurs flash et tout, rouge, vert, bleu. Ça va être cool. Un beau party pour de psychotropes.
Et pour les plus vieux,
C'est le 3 avril.
Ouais, 3 avril, effectivement. Il y a The Devil Wears Prada 2, une suite à un film culte.
Suite inattendue.
Ouais, quand même. Ça fait près de 20 ans que l'original est
sorti. Ça va faire exactement
20 ans, c'est ça, en 2026.
2006.
Donc voilà. Donc on retrouve Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt
synopsis inconnu jusqu'à présent.
Je pense que le personnage d'Anne Hathaway, dont j'ai oublié le nom, est rendu la compétitrice de Meryl Streep.
Okay.
Fait Fait que je pense qu'on est là-dedans. Puis je pense un peu c'est le déclin du monde du magazine, effectivement. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça n'est plus le lustre de l'époque. Fait que je pense j'ai mis hâte de voir. Moi, j'avais bien apprécié le premier film, honnêtement. Là.
Je l'ai vu vraiment plus tard.
Ouais.
Je l'ai vu, il y a 3 ans, peut-être. Ça m'a pas marqué. Là. Je me souviens que c'était sympathique. Je comprends le buzz, mais tu vois, je me souviens pas comment ça finit. Puis ouais.
Donc voilà.
C'est quoi, au mois de mai, début mai?
1er mai.
1er mai. Ah, ça veut dire qu'il n'y aura pas de... On annonce, même au podcast, on parle toujours des sorties de films et tout, mais tu vois, j'y oublie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de film de super-héros ce week-end-là.
Exactement, parce que
pas du côté de Disney.
C'était l'Avengers qui sont... Ah, c'est ça, c'est l'Avengers qui est décalé en décembre.
Ouais, c'est ça, le gros
voilà,
film. Ouais, okay.
Ouais, voilà. Ah, ouais. Fait que, ouf, Dune contre Avengers, ça va
J'ai l'impression que Dune, probablement, qui est au, mettons, 15 décembre ou quelque chose comme ça. Il ne doit pas être au 25 décembre.
Mais j'ai pas vu.
Mais Avengers sont bien du genre à faire ça. Je sais pas si ça tombe quand dans un calendrier.
Ouais,
là,
Avengers, mais... je pense que ça va être la fin de semaine juste avant Noël, là, comme Avatar.
Ouais, c'est ça. Fait que 19-20. Puis l'autre doit être
10-15. Ouais, je regarde ça juste pour le fun en ce moment même. 18 décembre.
18 décembre, puis ouais. Le Avengers.
Avengers.
Ben, il serait quasiment à la même date ou il va être le 25?
18 décembre.
OK, c'est ça. Ils sont vraiment à la même date. Ouais, pure folie. Il y en a un des deux qui va se devancer d'une semaine, d'après
peut-être.
Moi.
Ça va être à suivre. Donc, mais oui, effectivement. Puis le DC, c'est Supergirl qui va être à l'été, je pense, en juillet.
OK.
Je pense que c'est la même date que Superman. Donc non, un mois de mai, ça...
C'est ça. Ben, il y a aussi qu'on a moins qu'avant, et c'est pour le mieux. Là. C'est ça, l'époque où il y avait... 5 Marvel par année, puis 3 DC, Sony qui faisait le enfant pauvre avec ses ouais, c'est ça, Spider-Man Extended Universe. Là.
Voilà, allons-y avec les sorties de la semaine, puis débutons.
Bon,
voilà
avec
où on va débuter à la course.
La course.
Avec The Running Man d'Edgar Wright.
Oui, le jeu du défi au Québec avec Glenn Powell, Josh Brolin, Michael Cera, Coleman Domingo. Il y a des filles aussi dans le film, mais surtout des messieurs blancs. Puis Coleman Domingo, le monsieur noir.
Ouais, quand même.
J'ai oublié. Dans un futur proche, le chômeur très colérique, Ben Richards, va s'inscrire, n'ayant pas le choix, à un jeu télévisé, une télé-réalité de chasse à l'homme où on lui court après puis on essaie de le tuer. Et s'il survit, 30 jours?
Ouais, 30 jours.
Il va gagner 1 milliard de dollars avec le petit doigt en coin comme Docteur Terreur. Mais ça s'est jamais vu. Personne n'a jamais réussi. Et c'est ça. Puis là, vous dites, mais ça me dit de quoi cette affaire-là? Mais c'est parce qu'il y a plusieurs... Il y a un matériel source qui est un livre de Stephen King de 1982, ou plutôt de Richard Bachman, le nom...
Son pseudonyme à l'époque,
oui. Son nom B. Quand il fait moins horreur, souvent, c'est ça qu'il met. Et il y a eu un film en 1987 avec le bon Arnold Schwarzenegger en soute de lycra. Et ici, on est, semble-t-il, parce qu'on ne l'a pas lu, mais plus fidèle au roman, justement.
Ouais, je confirme. Je suis allé lire pas mal les synopsis du roman, puis les beat par beat, là, les plot points, comme on dit, les points d'intrigue sont similaires.
Et si vous vous dites, mais c'est qui donc ça, Edgar Wright? Ça me dit quelque chose. Ben c'est le gars qui était derrière, c'est un Britannique.
Ouais.
Cinéaste, la fameuse trilogie Cornetto, je pense, là, avec Simon Pegg puis Nick Frost, là, fait que Shaun of the Dead, ensuite c'était Hot Fuzz et finalement The World's End, qui était sur le pub, oui. la fin du monde, qui allait prendre de la bière. Et après, il a fait son passage aux États-Unis, il a fait Scott Pilgrim, il a fait Baby Driver, fait que c'est un réal, et Last Night in Soho, sont plus récents, c'est un réal qui aime l'action, qui aime le mouvement, qui aime le rythme, qui aime coller de la musique à l'image sans nécessairement faire des needle drop qu'on appelle, là, de mettre vraiment des tunes connues, mais juste être très vidéoclip dans sa mise en scène. Fait que c'est un film qui est quand même tout désigné pour lui. Ça doit être un projet de cœur quand même de réaliser ça. Et voilà, si tu veux nous en parler un petit peu aussi.
Ben, tu le mentionnes. En fait, juste revenir J'ai l'impression cette semaine d'être en 1987 avec un programme double d'Arnold Schwarzenegger dont il n'est pas dans les films parce qu'il y a aussi également Predator à l'affiche.
Oui, c'est vrai. Ouais,
donc, les deux étaient sortis la même année.
Ah ouais, les deux ouais, en 87 et là, des spin-offs.
Et voilà.
Et il y a un caméo malgré lui dans le film ici.
Quand même, je pense qu'on ne spoilera pas, ouais,
mais assez rapidement.
C'est très sympathique comme petit caméo. Fait que oui, tu l'as mentionné à Gerd Wright depuis 2017, en fait, qu'il avait annoncé son désir de revisiter ce film-là, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça correspondait chez lui, pourquoi il était en amour avec cette histoire-là. Fait que bref, tout ça a pris réellement ferme à partir de 2021. On est vraiment plus proche du roman de Stephen King, donc évidemment un ton beaucoup plus sérieux que le ton un peu cheesy série B de Running Man, ce qui était un film de vraiment de série B à l'époque quand même, un film qui avait quand même un gros budget, mais esthétiquement ça paraissait pas.
Ouais.
Parce que il y avait quand même un budget comme
pas
de,
à l'écran,
non, et comme de 30 millions quand même pour l'époque, ce qui était très raisonnable. Je pense qu'Arnold a dû prendre une bonne part à ce moment-là. Moi je dois avouer que j'aurais espéré avoir un petit peu plus de cette folie-là d'Edgar Wright dans la réalisation. Je trouve qu'il est très effacé. Puis il y avait un sujet, je pense, parfait pour ça, d'aller juste un petit peu plus dans la folie, peut-être jouer sur la façon de raconter l'histoire. Mais il s'essaye un petit peu. Il y a deux, trois petites passes là, que tu as. Ah, c'est intéressant au niveau narratif, mais je trouve qu'il manque un peu de sa saveur à lui.
C'est ça. Mais ouais, le film revient quand même dans des codes.
C'est assez classique.
Tu sais, c'est de la science-fiction puis un univers dystopique, mais ultimement, c'est un film d'action. Là,
ouais.
Plus, là, si on avait refait le film il y a 15 ans, ça aurait été Jason Statham. Là,
ouais. T'sais,
clairement, là. Fait que, mais Glenn Powell a un bon charisme
qui arrive
à défendre, surtout dans un personnage qui est, oui, empathique parce qu'il fait ça pour. Tu sais, on est dans un univers dans le futur en 2025. Ben, dans le film, non, mais dans le livre, c'était en 2025,
ouais,
c'est
ouais.
ça. Fait que
ouais.
C'est quand même drôle que ça arrive. Je pense qu'il y a des choses qui ont été orchestrées volontairement un peu là-dedans. Dans le film, on ne présente pas l'année, là. on est dans le futur. Là. Mais c'est ça, fait que c'est comme il y a du monde qui sont. On fait juste accentuer le fameux clivage du 1%, là, si on veut. Fait qu'il y a du monde qui sont extrêmement riches. La télé, le divertissement, on est un peu dans du pain et des jeux. Pendant ce temps-là, tout le monde est pauvre dans un régime totalitaire et tyrannesque. Fait que tout le monde est un peu la plèbe, puis essaye de survivre comme ils peuvent. Puis ils deviennent du divertissement pour les autres, t'sais. Fait que tu t'inscris dans des jeux télévisés où on va se moquer de toi puis t'humilier, mais tu peux gagner beaucoup d'argent ou même décéder. Puis finalement, c'est eux autres même qui consomment cette culture-là. Fait qu'il y a ce clin d'œil-là de genre... Ouais, il faudrait un peu se réveiller puis se regarder dans le miroir puis réaliser qu'on...
Ben, t'sais, une filière avec la série Hunger Games, clairement.
Ouais.
Je pense que c'était Suzanne Collins. Elle devait être fan un peu.
Oui.
Ouais, Suzanne Collins. Puis ce qui est quand même drôle aussi, c'est qu'il y a eu Marche ou crève.
Ben, j'allais dire qui est de Stephen King aussi,
King,
de Richard Bachman.
Exactement, qui est écrit un peu dans les mêmes périodes aussi. Donc, ouais, fait que c'était vraiment une thématique à ce moment-là de sa vie très chère.
Mais en ce moment, sous le. Je ne voudrais pas nuire à mon intégrité physique et morale, mais le régime américain en place actuellement nous guide tranquillement vers ça. Et on se moque aussi. Il y a comme une. Là-dedans, quand il écoute la télé à l'occasion, une fausse télé-réalité qui est pas loin des Kardashian puis ces affaires-là.
Oui, oui.
C'est clairement de ça qu'on se moque, même à l'époque de Jersey Shore et tous ces trucs-là. Fait que c'est très superficiel. On utilise beaucoup aussi la désinformation créée par intelligence artificielle. T'sais, dans sa quête pour signaler qu'il est toujours en vie, il faut qu'il envoie des vidéos à tous les jours. Puis finalement, le Josh Brolin, qui est l'espèce de producteur derrière tout ça, ben, s'il n'a pas ce qu'il veut, il trafique aisément. Puis on est déjà rendu là dans le deepfake puis dans ces trucs-là.
Ouais,
puis que ça a l'air vrai, là. Même moi, ça m'est arrivé une fois là, de partager à ma famille là, une vidéo animale que j'étais comme, hey, c'est insolite en tabarouette ce truc-là. Puis c'est mon beau-frère qui a fait comme, ah, je pense que c'est de l'IA. Puis j'ai fait comme, c'est là que j'ai réalisé qu'on peut se faire surprendre, mais qu'il y a aussi comme, ok, c'est rendu, tu sais, l'IA, c'est pas, c'est encore plus vicieux, c'est que c'est même pas juste pour genre des discours de politiciens, puis l'utiliser, puis mais c'est aussi pour comme du divertissement. Fait que tu crées du faux divertissement pour faire du clickbait, pour générer, parce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec ça ou qui a une popularité d'une certaine manière ou de quoi. Je dis, OK, c'est vraiment vicieux, là. C'est dans toutes les couches qui a ça. De nos univers,
tout à fait.
Fait que c'est un peu ça. Fait que le début du film, quand il présente l'univers où est notre bon...
Ben Richards.
Ben, on comprend qu'il est empoisonné de tout ça, puis que tout le monde est un peu pogné là-dedans, puis il fait son train-train comme ils peuvent. Puis après, ben là, le film tombe un peu plus dans, genre, ben là, son aventure, puis essayer de survivre lui, puis sa famille qui est un peu en otage, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est pour ça qu'on tombe un peu plus dans le carcan action. Mais je quand même...
C'est bien fait, quand même.
Ouais, puis c'est un divertissement de cinéma, absolument. Oh, ouais, c'est là, c'est tape à l'œil, puis tout. Ouais.
Et pour les fans de Glenn Powell, ben, comme tu l'as dit, il fait très bien la job.
Puis tu le sens que les 3-4 scènes, là, qui est en... Il y a une scène de cascade là, qui est en serviette là, parce qu'il se fait comme surprendre au moment de la douche.
Pour la jante féminine,
tu penses? Ben, ouais, mais tu sais, Arnold, c'était pareil. Là, Arnold puis Stallone, là, c'est un pour les hommes, mais on dit c'est pour les femmes, peut-être au niveau de genre « Ah, il est beau », là, c'est sur un spectre d'hétérosexualité, mettons. Là. Mais je pense que tu sais, les hommes aiment les hommes nus aussi, là. Je sais que ça peut être choquant, mais tu sais, les gens, en général, passent pas autant de temps à s'entraîner puis à cultiver leur corps si c'est pas pour avoir des role models de corps puis tout. Fait que la consommation du visuel d'un homme musclé est pas la même, mais Arnold a inspiré tellement de gens à vouloir être musclé puis beau comme lui. Fait que finalement, tu n'oses pas l'avouer, mais tu le trouves beau toi-même, tu sais.
Ou bref, du moins, c'est très fascinant à voir quand même des corps...
sculpté littéralement là, des sculptures grecques et tout. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair, c'est les secrets du cinéma là. Il y a des haltères sur le bord de la scène, c'est comme on tourne dans 5 minutes là, il fait ses push-ups, ses biceps, toutes ses affaires, puis là c'est comme ok, on tourne, puis là j'ai l'air de rien, mais il est gonflé, contracté. Mais tu peux pas acter si tu te contractes les muscles, parce que là t'as l'air crispé, fait qu'il faut juste que t'ailles pompé là, de sang et de tout dans tes muscles.
Mais Schwarzenegger le disait pour le tournage de Predator, les gars faisaient des haltères 2 heures avant de tourner. Là.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'ils étaient là en 17 sur le tournage sur le plateau, on s'entraîne, ok, on est prêt à y aller, puis ils sont tout, Max.
Ben, tu sais, puis sais-tu qui d'autre fait ça? Les danseurs nus, là, ils font ça aussi en arrière de la scène. Ben, on le voit dans Magic Mike, puis ces affaires-là. Tu t'entraînes pour être juste comme. Après ça, tu as ta fluidité normale, mais tous tes muscles sont gonflés. Fait que, puis sans oublier, ben là, si les jours avec le cinéma, les jours de tournage où t'es nu, puis ça s'applique pour les hommes et les femmes, là, mais ben t'es nu, t'as de la nudité, ben là, ils vont faire des coupes alimentaires, des fois, comme la fameuse scène de Top Gun Maverick, quand ils jouent au football sur la plage, ben là, c'était comme, t'as une grosse taxe, toute ta préparation physique, puis 2-3 jours avant, là, tu tombes sur biscuit soda puis de l'eau, là. Fait que là, t'es ben sec et t'es tout musclé. Fait que t'as l'air, mais personne n'est dans cette condition-là tout le temps. Là, comme une pesée de boxeur, là, de lutteur. Puis, bref. Fait que tout est optimisé, mais il n'est pas de même à l'année longue, Glenn Powell.
Et petit shout-out à Michael Cera, que c'est toujours le fun à le voir au cinéma.
C'est
un petit bout, je pense qu'on l'avait vu. Ah, non, il était dans le film de... de Wes Anderson, quand même.
Ouais, c'est ça. Il y a des rôles plus pas des rôles, moi, ça, des rôles secondaires ou des films. Il n'est plus en tête d'affiche de blockbuster et tout. Puis,
il a toujours été un peu anti-Hollywood et tout ça. T'sais, il y a eu sa passe qui était populaire, fait que tu acceptes un peu, j'imagine, des rôles parce que là, tu t'en fais offrir, tu fais de l'argent, let's go. Mais
même, il faisait des comédies champ gauche un peu. Tu sais, Superbad, c'était pas écrit dans le ciel que ça serait un hit, là. Puis, fait que, tu sais, son projet le plus populaire, là, sauf erreur, c'est genre Scott Pilgrim, d'Edgar Wright.
Ouais,
mais même là, c'est plus un succès de club vidéo puis d'estime qu'un vrai succès
monétaire. Ouais, je pense qu'il y avait eu un gros échec commercial, un film d'époque. C'était avec Jack Black ou quelque chose? Ça a été tourné par Ivan Reitman, en tout cas, ouais.
Il y avait eu Year One. C'est une comédie, un très grand public, c'est vrai.
Qui avait floppé. Bref.
Ouais. Puis, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai hâte de voir dans quelques semaines qu'est-ce que ça donnera, parce que Edgar Wright n'est pas synonyme de box-office. C'est ça.
Ouais.
Fait des films qui ont des qualités et des défauts, mais qu'il y a quand même des fans qui le suivent beaucoup. Mm-hmm. Fait que...
Mais ça demeure un exercice très, très classique ici pour The Running Man.
Ah, oui.
Allons-y avec un cinéaste qui, lui, est hors norme. En tout cas, c'est un retour aux sources. Keeper d'Osgood Perkins.
Oui, l'élu au Québec. On est dans l'horreur surnaturelle ici.
Je pense qu'il avait bien qualifié en plus ce que tu avais dit quelque part entre Men et... c'était quoi l'autre?
J'ai dû oublier.
Film.
Cette conversation d'urinoir. Je m'excuse. J'ai dû oublier c'était quoi le comparatif que j'avais donné. Et The Watchers.
Ouais.
De la fille
de
Shyamalan. C'est des acteurs canadiens. Tatiana Maslany, qui est comme une des grandes comédiennes, une calgarienne, je ne sais pas comment dire, qui vient de Calgary, qui a joué dans plusieurs trucs aux États-Unis. Était-tu dans Orphan Black, elle? Je ne me souviens plus. En tout cas, des grosses séries canadiennes, et elle a fait le saut aux États-Unis.
Elle est également She-Hulk dans l'univers de Marvel.
C'est ça. Ouais, mais... gros rôle, quand même. Je ne sais pas si elle va revenir, par exemple. Et Rosef Sutherland, qui est aussi...
demi-frère de Kiefer.
Ah, c'est ça. Famille aussi. Mm-hmm. Scénario de Nick Leppard, qui nous a donné récemment Prédateur en eau trouble. Fait que, du monde prolifique. Puis Osgood Perkins, qui était, un peu pas tant connu, là, bien qu'on avait déjà établi que c'est le fils de...
Oui, Anthony Perkins.
Qui était dans Psychose.
Oui.
Psycho, oui, c'est ça, Psychose. Et il faisait des films d'horreur d'auteur depuis 2015-ish. Puis c'est vraiment Long Legs, il y a 2-3 ans, qui l'a comme propulsé, puis qui est devenu un succès que plein de monde sont allés voir. La curiosité de voir aussi Nicolas Cage et tout dans ce rôle-là, qui était son genre de Silence des agneaux surnaturel, justement, démonique. Après ça, il y a eu The Monkey, aussi adapté d'une nouvelle de Stephen King. Et là, c'était humour noir, comédie d'horreur, Coco Banane, Apocalypse, puis tout. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant le tournage de The Monkey, il y a eu la grève des scénaristes, je pense.
Et des acteurs aussi.
Et des acteurs, tout ça en même temps, il y a 2 ans. Et il voulait sauver, il était dans le tournage, fait qu'il voulait comme sauver son équipe, puis il tournait au Canada. Fait qu'il a dit, hey, on a ce scénario-là en arrière, on serait capable de le faire vite si finalement on le tourne au Canada. Fait qu'avec un scénariste qui n'est pas dans la guilde, il a pogné des comédiens. Ben, Tatiana Maslany était dans The Monkey aussi.
Ouais, mais eux, vu qu'ils sont canadiens d'origine, de ce que j'ai lu, c'est que
dans le fond, leur clause,
tu peux lever ta clause, effectivement.
Fait que là, finalement, ils ont fait ce film-là pendant la grève, et là, The Monkey est sorti avant, puis tout. Fait que c'est le troisième film qu'il fait avec Neon, au final. Et bref, c'est un peu ça qui est arrivé sur ce film-là. Mais c'est quoi la prémisse? Ben, c'est un couple, on comprend que ça fait quoi, quelques mois qu'ils se datent. Qui vont passer un week-end romantique dans le chalet de celui-ci. Mm-hmm. Et finalement, il va y avoir une espèce de présence surnaturelle, spectrale autour de la maison et dans la maison qui va jouer beaucoup dans la tête de cette dame, Liz. Fait que c'est plus sa vision et son parcours à elle qu'on va suivre, qu'on va même commencer à douter des motivations de son copain. Et du drôle de voisinage là-bas. Fait que ça retourne à ses premiers films parce que il y a une certaine lenteur. C'est pas un film à jump scare, c'est un film qui aime établir de l'étrangeté dans une forme de normalité, là, c'est-à-dire juste comme la nature autour. On utilise des flashbacks ou des flash-forward, on sait pas encore. Et qui va mener quand même à des... Quand je disais « men », des scènes un peu creepy, étrange, weird, d'étrangeté, de création artistique, un peu Guillermo del Toro, de genre, cette image-là, cette scène-là va devenir marquante peut-être dans l'année ou dans l'imaginaire collectif du film d'horreur. Mais c'est pas un film d'horreur, autant qu'on peut se dire, grand public, c'est pas un horror flick. Si je suis fan de jumpscare, puis de si j'avais 13 ans puis je vais aller dans une date, je trouverais ça bizarre comme film, là. C'est pas... sans être Scream non plus, là, mais c'est pas quelque chose entre les deux.
Tu frencherais peut-être pas après.
Non, c'est ça, mais tu sais, même ce que un succès que Long Legs a eu, on sait jamais quand quelque chose devient viral, là, mais je pense pas que ça a les moyens de le devenir. Puis je pense que ce qui est arrivé aussi, on analysait avec Long Legs, c'est que plein de gens sont allés le voir par la curiosité, parce que c'était... comme un peu Sinners ou des choses comme ça, mais c'est pas des gens qui après ont fait « Hey, Osgood Perkins, je mets ça dans ma checklist, puis chaque fois qu'il sort un film, je le vois. » Il y a des films qui sont des phénomènes qui vont attirer plein de gens, mais que les gens vont plus nécessairement consommer cet artiste-là ou ce genre-là, ou c'est juste ça a comme transcendé ce que ça devait faire. Là, comme on
voit, exact,
c'est un succès un peu inexpliqué. Là,
non, puis je pense à un comparatif, c'est peut-être le film, c'était Together qui était sorti cet été avec... Dave Franco. Fait que on est dans ce genre-là un peu. Là,
ouais, c'est vraiment entre le deuxième degré puis le premier degré du film. Là. C'est plate des fois aussi quand les films d'horreur, souvent, on dirait qu'on a juste un deuxième degré. Là. Le film n'est pas si intéressant, mais c'est pour dire « Ah, c'est une métaphore mm-hmm. sur ton addiction à la nourriture », genre des choses comme ça. Mais là, ça surfe entre les deux. Là, c'est ça.
J'avais lu que c'est décrit comme un film d'horreur surréel. Donc, ouais. Je pense qu'on...
Ouais, moi, je dis surnaturel, mais surréel, oui. C'est ça.
Ben, c'est les deux, je pense. Il y a du voilà. surnaturel.
Mais globalement, surréel. Je ne sais pas si ça témoigne, mais c'est comme c'est très appréciable comme film. Ouais. Je pense que n'importe quel adepte d'horreur de... justement, le Denny and le A24, le hors norme. Tu sais, il y a même un peu du Saint-Martyr des damnés, là, il y a très longtemps de... Robin Aubert, ouais, pas Robert Morin. tu sais, c'est ça, fait que c'est un visionnement que j'ai apprécié pour ça. Là, je pense que
ouais. ben, vous les avez une curiosité, sont le fun,
allez-y, exactement. Ouais, ouais. Je pense que c'est un cinéaste aussi qui travaille, c'est juste mon impression, là, qui travaille beaucoup sur l'instinct. Là. Probablement qu'il y a beaucoup de choses qui... Je sais pas à quel point il est préparé d'avance ou qu'il est plus « Hey, on est sur le moment, on fait ça. Hey, ça, c'est cool. Hey, c'est... » Il doit tourner beaucoup d'images. Là. Tu sais, juste le chalet a une forme tellement singulière. Là. Mm. Tu comprends que c'est un chalet assez luxueux quand même, là, ouais. mais pas luxueux comme formaté, une construction neuve. Là. C'est plus comme des grandes fenêtres. Il a l'air quasiment en bois de grange. Puis des pièces très asymétriques puis d'une espèce de multipalier là fait que c'est pas trop clair combien il y a d'étages dans la maison avec plein de petites trois marches mettons là très je sais pas le 70 là, comme construction là quand même
non fait puis
que, c'est un tu sais le lieu a dû inspirer le film beaucoup là ça doit être, à moins qu'il ait tout triché puis que c'est plein d'endroits différents là c'est, probablement que mettons le sous-sol la cave ça c'est ailleurs mais tout le salon cuisine l'extérieur d'après moi c'est le vrai chalet ça, weird ouais, ouais. qui est là
et Tatiana Maslany elle est très très bonne très
oui c'est ça aussi, ben ça rappelle justement ouais. Jesse Buckley qui avait ouais, ouais. Men de Alex ouais. Garland des trucs comme ça fait que,
très cool. Bonne prestation psychologique. Parlons de drame psychologique. Allons-y avec Où vont les âmes de Brigitte Poupard.
Oui, on est dans le
cinéma québécois.
Dans le cinéma ouais. québécois, dans le drame, avec Sarah Monpetit, Monia Chokri, Juliane Côté, fort trio, très oui. fort trio, qui joue des sœurs/slash demi-sœurs. En fait, personnage principal, joué par Sarah Monpetit, Anna Meyers, a 18 ans. Elle est atteinte d'un cancer incurable. Fait que. Comme un peu renonçant au traitement puis voulant accélérer l'inévitable, elle demande l'aide médicale à mourir. Mais dans ses un peu derniers vœux, elle veut renouer avec ses deux demi-sœurs, donc Eve et Éléonore, donc jouées par Monia et Juliane. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est que ce qu'elles ont en commun, c'est leur père et il est derrière les barreaux pour... on le dit-tu ou on le dit pas? C'est un secret?
Non,
pourquoi?
Je pense pas que c'est un punch.
OK, il est derrière les barreaux pour viol, pour inconduite sexuelle, viol sur des
un
mineurs et tout.
Prédateur sexuel, ouais.
C'est ça. Fait que... Sauf que donc, leurs relations sont vraiment pas les mêmes parce que là, juste en nommant les actrices, vous comprenez qu'il y a à peu près 10 ans entre chacune de ces, de ces comédiennes-là. Là.
Fait que la plus jeune, elle, c'est pas trop ça doit croire ça ou
ouais,
non.
Ouais, c'est ça.
Mais... Fait qu'elle a une autre
parce
relation.
Parce que ça s'est aussi passé comme avant, mais il s'est fait coincé plus tard et tout, mais ça s'est passé plus quand les deux autres étaient
ouais.
plus
et
jeunes.
Et c'est pas sur les ses filles non plus.
Non, c'est ça. Souvenir. C'est souvent sur les amis des filles, sur ouais. d'autres et tout. C'est... Fait que c'est pas incestueux, mais il y a ce côté-là d'amener, c'est ça. T'sais, toutes les gens qui ont sévi des crimes, ben, ils n'ont pas tous des enfants et des familles, mais ben, ils ont toutes une famille d'une certaine manière, des frères, des sœurs, des parents, des oncles, des tantes. Fait qu'il y a un peu ce regard-là. Fait que là, ils n'ont pas la même mère. Là, les deux filles n'aiment pas la nouvelle conjointe qui est la mère de l'autre. Fait que est-ce qu'on est capable de faire la paix, le temps de l'aider dans son processus à elle? À quel point on y croit vraiment ou on le fait pour bien paraître? Parce que là, on s'apprête tous à vivre quelque chose d'émotionnellement chargé. Et c'est la première fiction de Brigitte Poupard. Et on met, j'ai oublié de noter qu'il fait la direction photo, mais on met ça de manière très esthétique et très élégante en scène. Une superbe direction artistique et direction visuelle pour le film.
Et la musique aussi est au cœur du film. Et la musique de la trame sonore, elle est très, très belle aussi. D'ailleurs, je me suis entretenu avec Brigitte Poupard et Sarah Monpetit. Et très belle discussion. Donc, le papier va être en ligne au courant de la semaine parce que ça date d'hier, finalement, la rencontre.
C'est tout chaud.
Fait que, mais Brigitte Poupard parle beaucoup, effectivement. Ben, je lui ai parlé beaucoup de cette approche approche-là, très esthétique au film. La musique, la maison aussi, qui est un personnage quasiment en soi.
Ouais, puis là, le chant, le cheval.
Ouais, tout, fait qu'une belle discussion, honnêtement, avec les deux. Puis, ben, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, honnêtement. Je trouvais que Brigitte est vraiment un très beau film. C'est dense, mais en même temps, c'est pas misérabiliste.
Ouais.
On est quand même dans la lumière, en quelque part, à travers tout ça. Mais le film est porté par les trois comédiennes que tu as dit. Donc, c'est un trio infernal, une très bonne chimie entre les trois. Un trio de la mort. Mais ils ont une très bonne chimie ensemble. Ça fonctionne, on y croit. Plusieurs moments, j'ai été ému. J'ai aussi une fille de cet âge-là. Fait que c'est sûr que l'histoire est venue peut-être me chercher plus que davantage d'autres personnes. Puis ça, ça se peut très bien. Fait que, je trouvais que c'est un très beau film. Un sujet intéressant, bien amené, avec une touche artistique aussi. On flirte avec le cinéma d'auteur, mais pas aride quand même, très accessible. Donc, si vous voulez vous faire brasser les émotions et voir belle prestation de comédienne, où vont les âmes?
Oui, c'est définitivement, ben là, c'est comme pas tout à fait fidèle au calendrier, mais là, on s'approche du gala Québec Cinéma, mais... L'an prochain, ouais. C'est sûr qu'on va entendre parler de ces performances-là, de ce film-là et tout.
Ouais, effectivement. Pour compléter rapidement, il y a...
Je voulais juste dire, il y a quelque chose de fascinant, c'est que le film aussi décrit assez bien le processus de l'aide médicale à mourir parce qu'elle est là-dedans. Elle a besoin d'un médecin qui va signer son autorisation et sa grande sœur, jouée par Monia Chokri, est médecin. Donc, elle va essayer de l'utiliser, elle, et tout, blablabla. Fait que, parce que c'est quelque chose, je suis pas expert là-dedans, mais c'est ça, c'est légal au Québec, mais c'est encore discuté beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait réglé.
C'est controversé chez les médecins, effectivement.
Exactement, c'est ça. Ouais. Puis c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps. Mm-hmm. On a vu beaucoup dans le cinéma français, parce que là-bas, c'est qu'en Suisse, c'est légal, fait qu'il y a beaucoup... Sauf que c'est encore appelé aussi suicide assisté, là, des fois. Là. Fait que c'est que les Français, ils peuvent le faire, mais il faut pas qu'ils disent qu'ils vont faire ça, sinon ton voyage n'est pas autorisé, plein de choses. Fait que on remonte à 2021, où François Ozon présentait « Tout s'est bien passé », qui traitait de ça, justement, avec le... merde, j'ai oublié son nom, c'est pas de Moustier, là, mais André Dussolier, quelque chose comme ça, là, qui jouait le père avec...
Sophie Marceau.
Sophie Marceau, voilà, puis là, qui se rendait en Suisse pour faire ça. Puis cet été, il y avait deux films en même temps, On ira, avec Alain Vincent et Pierre Lottin, puis Aimons-nous Vincent, qui est un... Aimons-nous Vivant, pardon, avec Valérie Lemercier et Gérard Darmon, qui est un petit peu plus comédie, mais les deux, c'était du monde qui veulent aller en Suisse pour demander l'aide médicale à mourir sans trop le dire à leurs proches, puis comment on fait ça, puis amener, il faut leur dire la vérité. Mm. Fait que, ouais, c'est ça, c'est vraiment d'actualité, en tout cas, du moins, dans la francophonie, de discuter de ça. Et Sophie Deraspe a eu son financement. Il prépare le documentaire Le Dernier Acte sur ça, en discutant avec des médecins, qui sortira en 2027, par contre. D'accord. Mais on continue de discuter de ça, parce que c'est encore tabou, je pense. Et, voilà. Puis c'est peut-être, c'est ça, hypothèse, là, comme tu dis, c'est pas tous les médecins qui sont encore et tout. Mm-hmm. C'est peut-être quand t'as un cancer ou quelque chose d'incurable, c'est là, mais si quelqu'un le demande parce qu'il fait de l'Alzheimer, ben là, on va être comme, ben là, non, tu sais, rends-toi plus loin, mais à un moment donné, tu te rends...
T'es trop loin,
puis là, les proches peuvent pas le demander pour toi, fait que c'est ça, c'est là qu'il y a encore flou, voilà. Mm-hmm. Autre grosse sortie qu'on a pas eu le temps de voir.
Non.
Now You See Me, Now You Don't, Insaisissable 3 au Québec, de Ruben Fleischer, fait que c'est une espèce de...
Zombieland.
Ouais, en fait, c'est très Jesse Eisenberg, l'œuvre de Ruben Fleischer.
Ouais.
Parce qu'il y avait aussi 30 Minutes or Less, une comédie au départ qui avait ça. Il a fait le premier Venom. Fait que on retrouve les cavaliers, les Four Horsemen, dont Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, qui est de retour, elle qui était sobée par une autre comédienne dans le deuxième film.
OK, moi j'ai pas vu
le 2. Il me semble que dans le 2, c'était quelqu'un d'autre qui prenait son rôle. Dave Franco. Et s'ajoute Rosamund Pike, qui va jouer notre antagoniste. Et l'espèce, ils sont en train de former comme leur nouvelle brigade, fait qu'avec des nouveaux jeunes, tout un peu semi-connus, Justice Smith, Dominique Sessa, Ariana Greenblatt, qui sont toutes dans le cinéma des jeunes qu'on voit de plus en plus. Justice Smith est comme semi-jeune, donc quand même avoir 30 ans, sûrement. Fait que bref, ces jeunes magiciens prestidigitateurs, tu sais, les Insaisissables, c'est des films de gimmicky, puis arrangés avec le gars des vues, là, un petit peu à la Ocean Eleven, mm-hmm. là, mais de, c'est sûr. Là, c'est pas de la magie Harry Potter, c'est de la, oh, de la, oui, supercherie, là.
Ouais.
Fait que ils font des spectacles, sont très connus, mais ils font aussi des petits crimes, mais gentiment, genre voler des choses pour le bien, là. Un peu Arsène Lupin, là. Fait que ils vont orchestrer un grand vol de qui est très risqué, pourrait se faire pincer, soutirer le bijou le plus précieux du monde, des griffes d'une des dangereuses organisations criminelles de la planète. Fait que Rosamund Pike, qui va jouer l'antagoniste là-dedans, qui va être un peu leur donneuse de job jusqu'à temps qu'elle se revire contre elle, là, tout ça est très clair dans la bande-annonce, mm-hmm. déjà. Mais on dit que c'est probablement le meilleur de la série, un des meilleurs. Je sais que le deuxième était quand même décevant, mais là, on remonte la pente.
Ben moi, je vais avouer que j'ai écouté le premier cette semaine,
okay.
que je n'avais jamais vu. Je trouve ça quand même très satisfaisant.
C'est ça, c'est vraiment pas des grands films, mais c'est des films qui ont la... Puis c'est quand même rare d'avoir ça, mais c'est très le fun à écouter. Ouais. Je pense qu'ils sont pas aussi intemporels que les fameux Ocean 11, 12, 13 avec George Clooney puis Brad Pitt, que ça, on parle encore de la suite. Puis tout est saisissable. C'est toujours comme, ah, ils en font un autre? Ben, OK. Puis c'est comme... C'est « good time at the movies », c'est mm-hmm. un peu comme « Running Man », mais qui est dans l'action. Lui, est un peu plus familial, là, comédie d'aventure, mm-hmm. c'est pour tous. Qui, c'est quoi la vérité? Qui niaise qui? Comment ils vont s'en sortir? Qui contrôle vraiment? Qui tire mm-hmm. vraiment les ficelles? Ça dure 1h55, c'est juste le fun, là, c'est ça. C'est comment dire, c'est la... Ouais, c'est vraiment un bon film à aller voir ces temps-ci. C'est le temps est morose un peu. C'est pas encore le temps des fêtes. C'est comme... Peut-être même que le film va s'accrocher puis rester jusqu'au temps des fêtes. Puis ça va devenir le... Il y a souvent ça dans le temps de Thanksgiving, mm-hmm. là, de... l'anglicisme, là, mais du Thanksgiving américain, de genre, ah, oh, ce film-là, ça va passer un coup de vent. Mais finalement, il fait juste s'accrocher. Puis ouais. au temps des fêtes, comme il remonte, parce que là, les gens sont disponibles pour aller le voir. T'sais.
Ouais, les deux premiers ont été de jolis succès quand même au box-office. Puis écoute, Lionsgate ont déjà annoncé un quatrième.
Ah oui, OK.
Ouais, ouais, sont, ouais,
mais Lionsgate, petite parenthèse, là, on discute cinéma, ils ont eu une mauvaise année, ouais. là, beaucoup d'échecs. Fait que je pense qu'ils veulent aussi capitaliser sur leur succès, fait que ça s'annonce quand même bien pour ça. Puis c'est comme, probablement pour les deux prochaines années, c'est comme, faut miser sur nos franchises. Ben, écoute, ça nous prend un autre John Wick.
On aura le retour d'Hunger Games l'année prochaine.
Ben, c'est ça, exact. Que, ouais, fait que là, il faut se remettre en confiance, sécuriser les investisseurs, là, puis après, on prendra des risques sur des trucs, là, tu sais.
Exact.
Fait que, mais, tu sais, mettons, Marche ou crève a été une belle surprise, là, ouais. parce que ça n'a pas coûté une énorme fortune. Mm-hmm. Ça a bien fait et tout, mais je me souviens plus tout par cœur, là, mais il y a eu une couple de... Ouais, d'échecs, là, dans l'année, là, dont, justement, le spin-off de John Wick a été très mollo, là. Fait que voilà, écoute, tu vois, ça j'étais un peu neutre par rapport à ça, mais plus là on est rendu vendredi, le film est sorti, c'est un manque de temps là, qu'on n'a pas pu voir. Là. Mais je pense que je vais essayer d'aller le voir si ça m'adonne, sur mon temps libre, un petit mm-hmm. dimanche soir, avec la foule, tout le monde rire en même temps. voilà. Autre sortie, je nomme Les Cowboys fringants, Québec 14-01-2023. Alors non, c'est pas un film de comment THX machin. C'est un spectacle des Cowboys fringants. C'est pas le spectacle des Plaines d'Abraham, c'est celui du 14 janvier 2023 de je sais plus quelle tournée. Là, je suis pas un grand connoisseur des Cowboys fringants, mais c'était avait été tourné au Centre Vidéotron et ça sort dans plein de cinémas. C'est une formule un peu événementielle, fait que normalement, les prix sont un petit peu plus chers que le cinéma régulier. C'est pas clair, tu sais. En fin de semaine, le 14 novembre, beaucoup de cinémas le jouent. C'était pas mal à la discrétion, tu sais, contrairement à Taylor Swift, qui sont très exigeantes, oui, oui, oui. quoi. C'est comme à la discrétion de chaque cinéma.
Okay.
Un peu comme on avait fait avec Harmonium, Symphonique, là, tu sais, c'est comme, gars, jouez-le, vous voulez le mettre le soir, le jour, mettez-le une fois par jour. Il y en a qui le jouent juste le week-end, il y en a qui vont le jouer toute la semaine. Donc, peut-être qu'il va y avoir des reprises pendant plusieurs week-ends, ouais. peut-être que non, ça dépend comment ça réagit.
Surveillez là, bien les horaires, donc, dans vos cinémas préférés, parce
ben,
que ça
c'est
peut changer.
Ça, mais tardez pas trop non plus. Mmh. Dites-vous pas, oui, je vais y aller, justement, dans le temps des fêtes, on ira voir ça, tu sais, ça sera plus là, là je pense. Mmh. Fait que voilà pour les Cowboys fringants. Puis c'est sûr, faites pas le saut s'il est comme 25$. Là. Je pense que c'est entre 20 et 22. Fait que c'est un petit peu plus cher. Pas plus cher qu'une salle PLF, là, large format ouais. 3D, D-Box, machin. Là, mais plus cher qu'un petit film normal de mardi après-midi, peut-être. Voilà, la semaine prochaine, ben là, vous dites, vous avez pas parlé du film qui représente la Norvège, de Valeurs sentimentales, de Joachim Trier. Oui, il sort le 14 novembre à Montréal, mais c'est le 21 novembre qui sera en sortie plus large en région, partout dans la province. Alors, on le verra à ce moment-là avec Renate Rinsvé. J'ai très hâte de voir ce film-là.
D'autant plus que Mediafilm l'a donné une cote de 2.
Oui, c'est ça. Oui, lors de sa présentation à Cannes, avait été vraiment remarqué avec Papa Skarsgård. Comment s'appelle le nom?
Stellan,
c'est ça. Et voilà. Puis aussi, qui parle de production de films dans le film. Ça, on aime bien ça dans ce temps-là. Tout à fait. Et ben pour les fans du genre, il y en a qui ont sûrement déjà leur billet pour Wicked for Good, Wicked pour de bon, le deuxième volet de deux de John M. Chu, du prequel au Magicien d'Oz.
Moi, bien hâte de voir.
Je sais que t'as bien hâte de voir. Ouais. Fait que à discuter comment on fera notre pacing. Non, c'est juste parce que j'ai comme fait une résolution de peut-être voir un peu moins de films parce que là, dans mon emploi du temps, ça faisait comme pas de sens là. Ça devenait juste une compétition avec moi-même. Fait que on va couvrir le podcast, on va couvrir l'âge, mais regarde, si tu y vas puis que moi ça donne pas, on sera capable d'en discuter ici. Voilà. Alors voilà, ça conclut donc ce balado. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca. Suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous. Là où vous écoutez le podcast, procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. La nouvelle édition tombe sous presse très bientôt, qui arrivera en décembre dans les kiosques. Je vais tout garder en secret. On en parlera dans les prochaines semaines de la couverture et des articles et tout. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et visitez monciné.ca aussi pour ton article, ton entretien avec Brigitte et Sarah à propos de Où vont les âmes, qui sera en ligne probablement lundi.
Peut-être plus mardi.
Qu'on me glisse à l'oreille. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais votre chum vous offre une porte... Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais votre chum vous offre une pointe de gâteau au chocolat, dites-lui donc que vous préférez la crème glacée.
Bon, là, j'ai envie de rouvrir, tu voulais fermer. J'avais oublié de le noter. Moi aussi, je suis une des rares âmes qui déteste le chocolat. Mais moi, j'ai mon amour propre. Je suis fidèle à ça. Et si on m'en propose, j'en goûte pas juste pour faire plaisir à l'autre. Et tu vois, ça me convainc de continuer. Chocolat, c'est non, c'est pas.
Est-ce que ça t'a dégoûté, cette scène-là?
Tout à fait, oui. Un gâteau double chocolat, fondant chocolat. Je vais prendre un verre d'eau, puis c'est tout. Merci.